Un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Face au coronavirus, le gouvernement interdit les visites aux personnes âgées dans les EHPAD. La mobilisation s'accélère en France devant la propagation du Covid-19. Emmanuel Macron s'adressera aux Français demain soir. Nous ferons le point avec Margot Delpierre dans un instant. En Chine, le président Xi Jinping avait annoncé hier la levée partielle du confinement à Wuhan. En réalité, l'activité économique reste résiduelle dans la ville. Les précisions d'Élise Delève. Dans ce journal, nous reviendrons sur les conséquences économiques de la crise du coronavirus. En Allemagne, Angela Merkel assouplit sa politique budgétaire pour répondre à l'urgence. Ludovic Piétenu nous appellera de Berlin. Nous évoquerons aussi la chute du transport aérien au niveau mondial avec Hakim Kasmi. Dans le reste de l'actualité, parole à la défense dans le procès des époux Fillon, procès suivi par Antoine Maret. Et puis Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Loïc Loury a suivi à New York le jugement de l'ancien producteur vedette. 33 morts et 1784 contaminations. Les chiffres du nouveau coronavirus en France n'ont pas changé depuis hier, mais le ministère de la Santé doit faire un nouveau point de situation ce soir. Pour l'instant, la France reste au stade 2 de l'épidémie, mais les mesures contraignantes se multiplient, comme l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Margot Delpierre, bonsoir.
Bonsoir.
Dernière mesure en date, la suspension des visites dans les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Oui, alors ces visites des familles étaient auparavant restreintes par endroits, avec des mesures de précaution renforcées dans les établissements. Parfois, elles étaient même déjà interdites, mais cette fois, la décision est nationale. Toutes les personnes extérieures aux EHPAD, mais aussi aux unités de soins de longue durée, ne sont plus admises pour le moment. Dans le cas des résidences autonomie, qui sont une alternative entre le maintien à domicile et l'EHPAD, là, les visites sont fortement déconseillées. Il pourra y avoir des exceptions au cas par cas, notamment concernant les personnes en fin de vie. Ce sera alors à chaque directeur d'établissement de décider sur la base des préconisations délivrées par l'ARS, l'Agence régionale de santé et la préfecture. Il ne s'agit pas de couper toute forme de communication entre une personne âgée et ses proches. Au contraire, l'entourage sera informé très étroitement de l'évolution de la situation. Et si la vie sociale de cette personne va s'amoindrir, un lien sera malgré tout conservé. Mais vous l'aurez compris, ça se fera autrement que par des visites.
Margot, la situation dans les EHPAD est bien sûr un sujet de préoccupation majeure car le taux de mortalité lié au coronavirus est très élevé chez les personnes âgées.
Oui, en France, la mortalité la plus importante concerne les personnes âgées. Sur les 33 décès en France, 23 avaient plus de 75 ans. Mais il faut préciser que s'ajoutent souvent au coronavirus d'autres pathologies. On n'en meurt pas forcément directement, pas uniquement. C'est encore un point difficile à déterminer. Protéger les plus fragiles face au virus, c'est ce qu'Emmanuel Macron annonçait déjà vouloir faire la semaine dernière en visite dans une maison de retraite parisienne. Le président de la République avait ensuite déclaré qu'il fallait limiter au maximum les visites à nos aînés.
Margot Delpierre, merci. Nous ne sommes qu'au tout début de l'épidémie, avait averti Emmanuel Macron lundi. Le président qui fera une déclaration télévisée demain soir à 20h, sa première allocution solennelle depuis le début de la crise. Ce discours du chef de l'État interviendra à 3 jours du premier tour des élections municipales dimanche. Le coronavirus qui serait désormais une pandémie, c'est ce que vient de déclarer à Genève le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant en Chine, le président Xi Jinping estime désormais que l'épidémie est pratiquement jugulée. Propos tenus hier lors d'un déplacement à Wuhan, l'épicentre du Covid-19. De fait, le nombre de nouvelles contaminations dans le pays a chuté de façon spectaculaire, 24 seulement lors des dernières 24 heures. Pour Xi Jinping, il est donc temps de remettre la Chine au travail. Le président chinois promettait hier une levée partielle du confinement dans la province de Hubei. En réalité, Wuhan reste aujourd'hui une mégapole sous cloche. Élise Delève a contacté des Français installé dans la ville.
Jackie Rimbaud, chef d'entreprise, est enfermé chez lui depuis le 16 février. Il pensait reprendre le travail aujourd'hui, mais les autorités ont repoussé son autorisation. Seules les grandes entreprises ont repris, mais cela lui redonne tout de même le moral.
Dongfeng, Honda notamment aussi, a repris ici à Wuhan, mais avec des effectifs réduits, avec obligation au personnel de dormir sur place. Bien sûr, ça redonne du moral. La plupart des personnes chinoises ici, hein, notamment mes collègues avec qui je suis en contact tous les jours, hein, on sent que la date est proche, hein, à laquelle on va retourner travailler, et ils sont impatients de retourner travailler, c'est clair.
Selon Philippe Klein, médecin français qui dirige la clinique internationale de Wuhan, les mesures de confinement sont tellement drastiques que l'épidémie ne repartira pas en Chine.
On va attendre d'être à zéro nouveau cas par jour, et puis il y aura ensuite des périodes de levée du confinement, quartier par quartier, ville par ville, puisque Wuhan est composé de 3 villes, pour enfin permettre à toute la région du Hubei de se rouvrir à la Chine.
Il reste une quarantaine de Français à Wuhan. Beaucoup d'expatriés sont rentrés au début de l'épidémie. Ils attendent la fin du confinement pour pouvoir revenir, mais les autorités chinoises sont méfiantes. Elles craignent une réintroduction du virus depuis l'étranger.
Élise Delève, cette crise du coronavirus menace l'économie mondiale. Exemple, la croissance française devrait tomber à 0,1% au premier trimestre selon la Banque de France. En Allemagne, l'urgence sanitaire conduit Angela Merkel à assouplir sa politique budgétaire. La chancelière s'en est expliquée ce matin. Ludovic Piétenu nous appelle de Berlin.
Merkel passe d'une approche dogmatique à une vision pragmatique. Tout cela reste très allemand. La chancelière est simplement prête à faire preuve d'un peu plus de souplesse.
Je crois que le pacte de stabilité dispose de suffisamment de flexibilité, y compris en cas de situation inhabituelle. Et cela signifie que nous ne pouvons pas dire non à un pays comme l'Italie, même s'il est concerné par cette question de la stabilité financière. Nous sommes dans une situation d'urgence où on ne fait pas toujours les choses comme on les aurait voulu ou comme on les aimerait. Nous devons affronter une situation extraordinaire avec des moyens extraordinaires.
Pressée de toutes parts par les économistes de son pays qui jugent la récession en Allemagne quasi inévitable, doublée d'une crise sanitaire inédite par son ampleur, Angela Merkel s'adapte à la situation. Mais attention, aucune folie, elle ne fait que respecter ce que disent à la fois le pacte européen et la loi fondamentale allemande. Les deux textes prévoient bien des dépassements possibles en cas d'urgence et d'imprévu.
Ludovic Piétenu, correspondant en Allemagne. En Italie, le gouvernement prévoit 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie et ses conséquences. L'Italie, le pays le plus touché en Europe, avec 631 morts et plus de 10 000 contaminations. Toujours au chapitre des conséquences économiques, le transport aérien est frappé de plein fouet par la crise. Un exemple parmi d'autres, la compagnie allemande Lufthansa annonce ce matin l'annulation de 23 000 vols entre le 29 mars et le 24 avril. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Il y a une semaine, l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, prévoyait une perte de plus de 100 milliards de dollars. Et depuis, la situation du secteur a empiré.
Oui, à commencer par Air France, après avoir déjà perdu plus de 200 millions d'euros avec la suspension de ses vols sur la Chine qui représente 5% de son chiffre d'affaires, la compagnie annonce désormais qu'elle va annuler un quart de ses vols en Europe, 13% de ses longs courriers et 17% des vols domestiques en France. Mais le pire reste à venir avec l'expansion du virus dans le monde, ce qui va obliger la compagnie tricolore à réduire encore ses capacités. Le groupe prévoit déjà d'annuler 3600 vols en mars. Idem pour son partenaire hollandais, KLM. Résultat, la facture risque d'être très salée pour l'ensemble des compagnies aériennes de la planète, puisque selon IATA, l'association du transport aérien internationale, elle sera comprise entre 63 et 113 milliards de dollars, ce qui risque encore de fragiliser certaines d'entre elles, qui étaient déjà dans le rouge avant même le coronavirus, comme par exemple Alitalia ou la britannique Flybe, déjà mal en point qui du coup a dû fermer boutique. Il faut dire que dans le secteur aérien, les marges sont déjà très faibles. D'ordinaire, elles oscillent entre 2 et 5%. Enfin, les aéroports français, par répercussion, n'échappent pas à la crise du coronavirus, puisque leur fréquentation a chuté de 20% sur l'ensemble des aéroports du territoire. C'est pourquoi ils vont demander au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui les reçoit actuellement, de réduire et surtout d'annuler, de suspendre pour l'instant, la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui représente environ 60 millions d'euros.
Hakim Kasmi, merci. Et justement, à propos des aéroports français, on apprend aujourd'hui que le gouvernement renonce pour l'instant à privatiser ADP, Aéroports de Paris. Les conditions ne seraient pas réunies pour mener à bien l'opération. C'est ce qu'a expliqué la porte-parole Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres. Nicolas Joly, bonsoir.
Bonsoir.
L'annonce intervient à la veille de la date limite pour le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP. Les promoteurs de ce RIP n'ont pas réussi à recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires. parlementaires. Le compteur affiche ce soir 1,1 million de signatures.
Et donc pas de référendum, à moins de recueillir 3,5 millions de signatures en une journée. Mais référendum ou pas, c'est bien la conjoncture économique actuelle qui fait que la vente d'ADP n'est pas à l'ordre du jour. Conséquence du coronavirus qui a fait plonger les cours de la bourse à l'échelle mondiale. En clair, on s'occupe d'abord de pallier les effets du virus et on verra ensuite, c'est ce qu'a expliqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye tout à l'heure en sortie du Conseil des ministres.
L'instabilité actuelle des marchés montre que les conditions de marché ne sont pas du tout favorables pour le moment à une quelconque opération de privatisation et en particulier pour ce qui concerne ADP. Par ailleurs, je vous avoue que le ministre de l'économie et des finances est particulièrement mobilisé en ce moment sur la question des mesures à prendre pour contrer le ralentissement économique que nous connaissons, mais également des mesures de moyen terme pour voir comment nous pourrons relancer notre économie une fois cette crise passée.
Pour le moment, le gouvernement conserve donc les 50,6% du capital d'ADP qu'il possède. Mais à l'heure où l'on s'interroge sur l'avenir du transport aérien et sa place dans nos déplacements, à l'heure de la transition écologique, est-ce vraiment possible de trouver des investisseurs à qui vendre ses parts? Et que valent-elles vraiment? Laurent Saint-Martin, député En Marche du Val-de-Marne, en tout cas y croit, le gouvernement pourra vendre à bon prix.
Les aéroports sont un marché atypique en soi, mais très concurrentiel et qui génère des profits. La preuve, l'État français a reçu du dividende chaque année et c'est ça que nous pouvons valoriser, vendre à prix élevé pour pouvoir investir dans les innovations de demain. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut un État actionnaire et gestionnaire d'une rente comme ADP ou est-ce qu'on veut que l'État investisse dans l'avenir? Voilà. Nous, on a choisi d'investir dans l'avenir.
Il n'empêche que plus d'un million de personnes se sont exprimées contre le projet en demandant justement ce référendum. Et dans les manifestations contre la réforme des retraites, on voit toujours des pancartes brandies contre le projet de privatisation. Alors avant de réaliser cette vente, le gouvernement devra attendre une accalmie économique, mais peut-être aussi une accalmie sociale, sous peine de remettre de l'huile sur le feu de la contestation, récemment ravivée par l'utilisation du 49.3.
Nicolas Joly, merci. Le laboratoire Boiron, géant mondial de l'homéopathie, va supprimer 646 emplois, ce qui représente environ un quart de ses effectifs. L'entreprise pharmaceutique annonce aujourd'hui la fermeture de 13 de ses 31 sites en France, dont l'usine de Montrichard dans le Loir-et-Cher. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Boiron justifie ses suppressions de postes par la fin programmée du remboursement de l'homéopathie.
Oui, cette réorganisation présentée cet après-midi au syndicat est sans précédent, estime le leader mondial de l'homéopathie qui revendique une production 100% française. Outre le site de production de Montrichard qui va fermer ses portes, 12 établissements qui préparent les commandes sont touchés à Avignon, Grenoble, Strasbourg ou encore Toulon. Et en parallèle, le groupe lyonnais va créer 134 postes et réorganiser sa force commerciale car il lui faut repartir à la conquête des clients perdus et gagner de nouveaux marchés à l'international. Entre 2017 et 2019, ses ventes ont chuté de près de 20% en France, qui représente encore 56% de son chiffre d'affaires, une période pendant laquelle les vertus de l'homéopathie ont été remises en cause via notamment une tribune publiée en mars 2018 par 124 professionnels de santé qui dénonçaient l'utilisation de médecines alternatives. L'annonce du déremboursement proprement dite date, elle, de juillet dernier, donc les ventes devraient continuer à chuter, estime Boiron, surtout que le déremboursement total sera lui entériné en 2021. On rappelle que depuis le 1er janvier, l'homéopathie n'est plus remboursée qu'à hauteur de 15%. Alors le groupe essaye toutefois de stopper le processus. Il a notamment déposé un recours devant le Conseil d'État pour réclamer un moratoire sur le décret qui prévoit cette fin du remboursement. La décision de la haute juridiction administrative est attendue pour la fin de l'année.
Anne-Laure Jumet, merci. Le procès des époux Fillon s'achève ce soir avec les plaidoiries de la défense. Hier, le parquet national financier a délivré un réquisitoire implacable contre l'ancien Premier ministre. 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Contre Pénélope Fillon, les procureurs avaient demandé 3 ans de prison avec sursis et la même amende. Cet après-midi, la défense a tenté de démonter l'accusation d'emploi fictif. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maretz.
Maître Cornu-Gentil laisse planer le soupçon du sexisme dont serait victime Pénélope Fillon. Il juge la formule « victime consentante » du procureur pleine de mépris. Il estime ses propos même insultants quand il s'adresse à la prévenue avec ces mots « Je souffre pour vous car vous êtes prisonnière d'un système de défense imposé par votre mari ». Pour l'avocat, cela revient à dire qu'elle n'est rien d'autre qu'un instrument entre les mains de son époux. « On n'a pas hésité à la présenter comme une idiote », s'indigne-t-il, et d'ajouter « C'est une violence inouïe de dénier à ma cliente son libre arbitre. Sauf que c'est d'abord, l'avocat le reconnaît, comme épouse d'eux que Pénélope Fillon a été recrutée comme assistante parlementaire. C'est Madame Fillon. C'est elle et elle seule qui pouvait nouer un lien particulier avec les électeurs de la circonscription, soutient l'avocat. Et son rôle ne s'est pas limité à de la représentation. Ses revues de presse, par exemple, à partir des publications locales, Maître Cornu-Gentil reconnaît, n'importe quel autre collaborateur aurait pu le faire, mais il ajoute « Tout homme politique aime avoir à ses côtés quelqu'un qui n'a pas envie de faire carrière, pour ne pas être mal informé par quelqu'un qui aurait des arrière-pensées. » L'avocat transforme donc la victime consentante en collaboratrice inoffensive, dans cet exercice de haute voltige consistant à défendre Pénélope sans accabler François, chaque mot a son importance.
Antoine Marette, depuis le palais de justice de Paris, ce procès des époux Fillon vient de s'achever et le jugement sera mis en délibéré. Il sera rendu le 29 juin prochain. À 67 ans, Harvey Weinstein pourrait bien finir ses jours en prison. Le tribunal de Manhattan à New York a condamné aujourd'hui l'ancien producteur vedette à 23 ans de détention. Weinstein, accusé de multiples agressions sexuelles, était jugé pour deux affaires pour lesquelles il a été reconnu coupable. On retrouve à New York notre correspondant Loïc Loury.
Harvey Weinstein, presque 68 ans, devrait finir sa vie derrière les barreaux. Ses avocats réclamaient la peine minimale, 5 ans de réclusion. L'ancien mania écope de 23 ans de prison, quasiment la sentence maximale encourue. Aujourd'hui, c'est en fauteuil roulant qu'il s'est présenté face au juge. Sa santé et son âge le condamnaient déjà, affirment ses soutiens. Ce procès particulièrement médiatique n'était pas équitable, assure sa principale avocate, Donna Rotunno.
Il y a des meurtriers qui sortent de prison plus rapidement qu'Harvey Weinstein. Cette sentence est liée à la pression, à l'agitation publique, mais pas aux preuves.
Les victimes, elles, ont été entendues pour ce qui restera comme le premier procès de l'ère MeToo, une vague née justement de l'affaire Weinstein. Gloria Allred, avocate spécialiste des droits des femmes, représente des dizaines de victimes présumées de l'ex-producteur, et notamment Mimi Alei, qui a témoigné lors du procès et dont elle lit les mots amers.
Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à la vengeance en se lançant dans cette affaire, qu'elle ne s'est même jamais senti en colère. Je me sentais juste triste, dit-elle, triste pour moi, triste pour chaque personne qui l'a blessé, et je me sentais même triste pour lui qui s'était infligé ça.
Harvey Weinstein, lui, retourne derrière les barreaux. Il n'a jamais reconnu autre chose que des relations consenties, n'a jamais présenté d'excuses ou exprimé le moindre remords.
Loïc Loury, l'un de nos correspondants aux États-Unis. À 14h46 aujourd'hui, le Japon s'est arrêté pour rendre hommage aux victimes du tsunami du 11 mars 2011. 18 000 morts sur la côte nord-est du pays. La catastrophe avait détruit la centrale de Fukushima. Elle avait forcé 200 000 personnes à fuir les communes proches du site nucléaire. 9 ans après, l'énorme travail de décontamination a permis le retour de la plupart des habitants. Mais l'inquiétude demeure face à l'accumulation d'eau contaminée qui pourrait être rejeté dans l'océan. Yann Rousseau nous appelle de Tokyo.
Depuis la destruction du site, les ingénieurs doivent continuellement refroidir les cœurs des réacteurs qui ont fondu en injectant de l'eau dans les bâtiments. C'est crucial pour éviter une autre catastrophe. Cette eau qui devient radioactive au contact des réacteurs est ensuite récupérée pour être décontaminée dans 2 grandes usines de retraitement qui ont été construites sur place. Au total, les ingénieurs ont déjà retraité 1,2 million de tonnes d'eau radioactive. Le problème, c'est que le traitement n'est pas complet. Il permet d'éliminer 62 radionucléides, mais l'eau en compte 63. Et ce dernier élément qui ne peut pas être éliminé, c'est le tritium. Donc cette eau chargée en tritium se retrouve stockée dans des réservoirs géants, installés un peu partout sur le terrain de la centrale, et il n'y a presque plus d'espace libre pour construire de nouvelles citernes. Le gouvernement voudrait donc rejeter lentement cette eau en mer, mais les habitants de la région refusent, ils dénoncent une nouvelle pollution. Le pouvoir assure que cette eau ne poserait pas de problème pour l'environnement. Il rappelle aussi que la plupart des centrales de la Terre rejettent aussi en mer ou dans les fleuves de l'eau contenant du tritium. Et l'ensemble de l'eau stockée à Fukushima en contient en réalité assez peu. Il y a au total 800 térabécquerels de tritium. Ce chiffre peut faire peur, mais il faut remarquer que le site de retraitement de La Hague en France rejette lui chaque année en mer plus de 10 000 térabécquerels de tritium. Donc en gros, le complexe français écoule en 20 jours ce que la centrale de Fukushima voudrait rejeter elle en 20 ans. Mais ce message ne passe pas du tout au au Japon, car les habitants de Fukushima ont perdu, depuis la catastrophe, toute confiance dans les discours officiels.
Yann Rousseau, correspondant au Japon. Un mot sur la présidentielle américaine. Dans les primaires démocrates, Bernie Sanders annonce ce soir qu'il reste en lice et il promet de tout faire pour battre Donald Trump. Bernie Sanders, largement devancé hier par son rival Joe Biden, dans les 6 États qui votaient pour le processus des primaires démocrates. On en reparle dans un instant dans le temps du débat. Le temps demain sera pluvieux sur les 3/4 du pays. Seul le sud-est devrait échapper aux nuages. La neige reviendra sur les Alpes et les Pyrénées, mais à haute altitude. Les températures restent clémentes, de 6 à 10 degrés pour les minimales. Les maximales iront de 10 à 16 degrés sur la moitié nord, de 15 à 22 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.